Alors, ma chère Caroline, première pour cette rentrée, et tu as choisi de nous parler, du coup, avec ce titre très poétique, les jeux vidéo au fil des pages. Mais qu'en est-il ? Quel est le sujet de ta chronique et précisément celui d'aujourd'hui ?
Alors, le sujet de ma chronique, c'est les livres qui parlent de jeux vidéo. Alors, ça peut paraître vague, ça peut être des romans, ça peut être des livres spécialisés, voilà. Je suis une grande lectrice, je suis une passionnée de jeux vidéo, et je trouvais cette chronique intéressante. Enfin, moi, en tout cas, vu ce que renferme ma bibliothèque, ça a l'air de m'intéresser, et je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes.
Faut dire quand même, en deux mots pour les gens qui ne connaissent pas, c'est non seulement tu es passionné de jeux vidéo, mais tu crées aussi du jeu vidéo, tu as un studio de jeux vidéo.
Mon humble studio Deus Marmota, le studio indépendant avec des petites marmottes ch'tis.
C'est ça, si vous voyez des marmottes, vous savez d'où ça vient.
Et effectivement, ce soir, du coup, j'ai choisi de vous parler d'un livre en particulier. J'ai pas eu à réfléchir bien longtemps. Pour moi, c'était un petit peu l'évidence de commencer par ce livre-là. Je pense que c'est ce livre-là qui m'a donné l'idée de cette chronique. J'ai décidé, ce soir, de vous parler,
attention,
messieurs, dames, de Ready Player One de Ernest Klein.
Ah.
Je pense que ça parle à certaines personnes.
Oui. Ready Player One qui a donc inspiré un film de Steven Spielberg.
Rien que ça. Et eh oui, rien que ça.
Je me disais aussi que le nom me parlait.
Et eh oui.
C'était de là.
Tout à fait, ça vient de là. D'abord, c'était un livre. Est-ce que vous l'avez vu déjà, le film ?
Alors non.
moi, je ne l'ai pas vu.
Mais j'aimerais le voir, ouais. À chaque fois, il a eu moyenne presse.
Il est sur ma liste aussi. Hein,
il est sur ma liste.
D'accord. Bon, bah, du coup, je suis navrée pour vous et toutes celles et ceux qui n'ont pas vu. Je vais spoiler, mais salement.
Oh, c'est pas très grave, je pense.
Sachant que ma chronique va quand même plus s'axer sur le livre, mais bien entendu, comme le film porte sur le livre, ça va forcément vous spoiler plus ou moins. Et ma chronique va aussi porter sur le comparatif entre le film et le livre. Alors, je vais tâcher de ne pas faire ma gronchon qui se contente de dire « Nya, nya, c'est mieux dans les livres ». Je vais juste vous expliquer les différences, les faiblesses et les points forts de chaque côté. Voilà. Alors, Ready Player One, donc ça c'est le titre original, il faut savoir qu'en français c'est plutôt le titre Player One pour les livres. C'est l'histoire tout simplement d'un adolescent. On est en 2045 et c'est la crise énergétique, la crise économique, le chômage bat des records. Il y a énormément d'espèces animales et végétales qui sont en voie d'extinction, qui ont disparu, donc c'est horrible. Les ressources sont difficilement accessibles, les gens meurent de faim, enfin c'est une horreur. Et les piles, c'est la nouvelle forme de logement, en fait, dans cette dystopie. Qui part d'un constat très simple, c'est que c'est plus simple quand même de se rapprocher des grandes villes. Les gens sont allés vers les grandes villes avec leurs petites caravanes, leurs petits camping-cars, mais à un moment, il n'y avait plus de place pour tout ce petit monde, donc au lieu de les étaler à même le sol, on a fait des piles. On a empilé, tout simplement.
Ah, des empilements.
C'est ça, les caravanes les unes sur les autres. Donc, nous suivons l'histoire de Wade. Wade qui habite dans une de ses piles et qui a la chance, entre guillemets, d'être sur le haut de la pile. Il vit chez sa tante. Il avait effectivement des parents, sauf que son père est très vite mort. Il est mort d'une façon un peu triste, c'est qu'il essayait d'avoir de la nourriture en fait en fouillant les poubelles, sauf que le magasin n'a pas apprécié et il s'est fait tuer. Et nous avons aussi sa maman qui est morte également d'une overdose parce qu'elle a connu le monde d'avant et qu'elle ne supportait pas de vivre dans ce monde et que voilà, c'était la seule chose qui lui permettait de tenir un peu le coup. C'est des détails, mais vous allez comprendre que ces détails comptent dans la compréhension du personnage. Parce que Wade, lui, il a toujours connu que ça. Déjà, il trouve ce monde triste, horrible, vraiment déprimant, mais il avait beaucoup, comment dire, pas de la pitié, mais vraiment une attention particulière pour sa maman qui avait connu le monde d'avant et qui voyait malheureuse. Donc voilà, nous suivons ce jeune homme qui démarre dans une situation très enviable, vous le noterez, n'est-ce pas ? Et il vit du coup chez sa tante. Dans cette pile, tout en haut. Okay. Sauf qu'il n'y a pas que ça, il y a effectivement, c'est un monde dystopique, horrible, les gens sont dans la galère, et il y a quelque chose. Il y a une chose qui le fait tenir, ce jeune homme, c'est ce qu'on appelle l'oasis. L'Oasis, c'est un monde virtuel qui a été créé par Anorak. Donc Anorak, c'est le nom de l'avatar en fait, du créateur du jeu, de l'Oasis. L'Oasis, ça consiste en quoi ? En fait, l'Oasis, c'est vous mettez des lunettes de réalité virtuelle, vous mettez des gants haptiques, et en fait, vous vous retrouvez dans un monde virtuel. Et c'est pas n'importe quel monde, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas une session d'apprentissage, c'est tout ça à la fois. Ce sont des milliers et des milliers de planètes qui regroupent plein d'informations, plein de mondes différents. Dans ce monde, tu peux avoir un avatar qui ressemble à ce que tu veux. Tu peux aller sur la planète de World of Warcraft, si tu veux. Tu peux aller sur une planète dédiée aux bibliothèques. Tu fais ce que tu veux. Et ce gars-là, du coup, il a créé ce monde qui s'appelle Oasis. Sauf que ce monsieur qui a créé ce monde, il a fini par mourir. Ce monsieur qui est un produit vraiment des années 80. C'est-à-dire que Anorak, je l'appelle par son... par son avatar, parce que c'est vraiment le nom qui revient le plus. Cet Anorak, en fait, il avait 8 ans en 1980, donc c'est vraiment pur produit de la pop culture de ces moments-là. Cet Anorak a fait un testament un peu particulier qui a été transféré à tous les utilisateurs de l'Oasis. Dans ce testament, en fait, on le voit en vidéo avec moult détails plus ou moins alambiqués tirés de l'Oasis, où en fait il explique simplement que voilà, ma fortune s'élève à, que je dise pas de bêtises, 250 milliards, quelque chose comme ça. Je n'ai pas d'héritier. Je vais vous lancer une quête. Et celui ou celle qui parvient à trouver mon Easter Egg gagnera toute ma fortune, aura tous les droits de l'Oasis. Bref, c'est devenu la nouvelle chasse au trésor. Et notre cher Wade, du coup, il a assisté à cela et il fait partie de ce qu'on appelle les chasseufs. Les chasseufs, c'est les personnes qui veulent trouver ce fameux œuf. Problème, c'est que quand ce monsieur meurt, forcément, il y a une hype d'enfer là-dessus, mais personne ne trouve le début de la quête qui se divise en fait en trois sous-quêtes. Il faut trouver trois clés pour atteindre le fameux œuf qui te permet d'avoir toute la fortune du monsieur. Sauf qu'au bout de 5 ans, notre fameux Wade qu'on suit finit par justement trouver la solution de la première énigme et il trouve la première clé, la clé de cuivre qui petit à petit va finir par le rapprocher à cet objectif final qui est l'œuf et donc bien entendu fortune de ce monsieur. Donc ça c'est pour résumer très succinctement, bien entendu à la fin il gagne. Ah si, je vous jure, il gagne à la fin, il a des sous, il est content, il est plus pauvre. Et il se passe moult choses entre deux, notamment il y a des méchants, quand même. Est-ce que vous avez une vague idée de ce qui ou qu'est-ce qui peut être le méchant dans ce genre d'histoire?
Le méchant dans le monde virtuel, du coup,
Dans notre histoire de Wade avec sa quête de l'œuf, là, qu'est-ce qui peut être méchant dans cette histoire?
Toujours un type un peu machiavélique qui voit le filon, qui voit l'argent, qui va se mettre à suivre les autres pour piquer les idées au dernier moment, ce genre de choses, non?
Oui et non. En fait, il y a une grosse société.
Oh, il était pas loin.
Dans les services en ligne, ouais, voilà. qui, en fait, a déployé des moyens monstrueux, c'est-à-dire qu'ils embauchent des centaines Facebook. Et des centaines de personnes qui vont dans le monde de l'Oasis et qui essayent aussi de faire la quête pour faire gagner, en fait, le gros lot. Mais au patron, en fait, qui est vraiment le cliché du patron véreux qui fait signer un contrat à ses salariés, qui dit en gros, très clairement, vous engagez pour trouver ça, mais une fois que vous le trouvez, c'est à moi, tous les droits sont à moi, enfin voilà, le type monstrueux. Ce monsieur n'est pas juste antipathique sur le côté, financier de la chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a le gros lot, lui, ce qu'il veut, c'est tout faire payer dans l'Oasis, parce que là, l'Oasis... Il y a des choses payantes dedans, bien entendu, pour qu'il puisse tourner, mais il considère que c'est pas assez et il a vraiment, vraiment envie de rendre la chose très difficilement accessible. Alors que pour le coup, en rentrer dans l'Oasis, ça coûte que 25 cents, normalement. Et en plus de cela, ce monsieur antipathique, dans la quête de Wade, il va jusqu'à tuer, en fait, les personnes qui avancent dans la quête. C'est vraiment, le gros méchant de l'histoire. Donc ça, c'est pour résumer, vraiment, Ready Player One. Oui.
C'est juste, c'est différent du film ou pas? Le film est vraiment entièrement cohérent avec ça?
Le film est entièrement cohérent avec cette histoire. Nous suivons Wade qui veut réussir sa chasse à l'œuf. Tu as cette multinationale qui s'appelle IOI qui lui met des bâtons dans les roues. Tu as ce dirigeant véreux qui tue des gens dans la vraie vie pour y parvenir. Jusque-là, tout est raccord.
D'accord.
Et les refs à la pop culture du film, parce que moi qui l'ai jamais vu, mais je pense que c'est ce que tout le monde a, c'est que les gens qui n'ont pas vu le film ont tous juste ce truc en commun de, il y en a, ça dégueule de refs, dans le film. Je pense que c'est l'info que tout le monde a. Mais dans le bouquin...
Ouais. Jeux vidéo, notamment.
Oui.
Mais dans le bouquin. Effectivement, dans le bouquin, ça dégorge de ça aussi. Ça, c'est vraiment très fidèle à l'œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, tu suis forcément... Enfin, c'est un livre qui est écrit à la première personne. Donc, c'est-à-dire que, ben, on suit les pensées de Wade, clairement. Et Wade, il passe sa vie à tout comparer à sa culture pop, qui est tirée de la culture pop d'Anorak. Parce que les énigmes, justement, pour trouver la chasse à l'œuf et tout, c'est... il faut connaître bien le Gugus. Et le Gugus, sa vie tournait autour de la pop culture. Tu vois. Ok,
mais de l'époque, parce que celle du film, c'est avec des rêves d'époque plus récentes, forcément.
Exactement. Donc ça, c'est la première grosse, grosse différence, celle qui tape à l'œil de tout le monde, c'est que dans le livre, on est sur des références vraiment des années 80. Donc on va parler de jeux vidéo comme Joust, Tempest, Adventure, on va parler de Pac-Man, et dans le film, on va avoir des choses beaucoup plus récentes, on va avoir des problématiques aussi beaucoup plus récentes. Ouais. Je pense notamment à la première épreuve. Moi, je vous avoue que ça, je vais en parler parce que ça m'a choqué quand j'ai vu le film. La première épreuve dans le livre, en fait, ça consiste à trouver déjà une caverne. Alors, personne ne sait où elle est, cette caverne, parce que c'est une charade qui a été donnée par Anorak, mais personne n'arrive à trouver, sauf Wade, qui a une idée, il a un éclair de génie. Parce qu'en fait, le seul endroit où notre pauvre Wade peut aller, dans l'oasis, lui, c'est la planète de l'école. En fait, il a eu son matériel qui a été prêté par l'école, et le seul endroit où il peut aller, c'est l'école, parce que tous les transports, à chaque fois que tu vas quelque part dans l'Oasis, ça se paye. Et Wade est pauvre, mais vraiment très pauvre. Comme je vous ai dit, c'est la galère, il ne peut pas se permettre. Donc il reste à l'école, et il a ce rêve quand même. Il étudie tout ce qu'est Anorak, mais il ne sait pas. Et à un moment, en fait, il y a une phrase qui lui vient en tête, c'est « Pour parvenir à vos fins, il vous faudra apprendre beaucoup ». Et en fait, il se rend compte que ben, qui est-ce qui apprend beaucoup ? C'est les étudiants. Donc il se dit peut-être que c'est sur cette planète-là, finalement, là où je suis, l'école, tout simplement, que je vais trouver la première clé. Et il a raison. En fait, il va se retrouver vers un tombeau qui porte le nom d'une quête de Donjons et Dragons. Bref, je vous passe les détails. Et en fait, il va affronter une liche sur une borne d'arcade de Joust. Vraiment le truc très très rétro. Voilà, et qui a aussi cette valeur, c'est pour ça que j'aimais bien cette aventure, qui a la valeur de Anorak. Il voulait que ce soit accessible à tout le monde. Il a posé ça dans le seul monde qui est gratuit, qui permet à tout le monde d'y aller, et qui a une valeur aussi symbolique en termes de culture, parce que c'est là que tu apprends, en fait.
C'est un peu comme l'Internet, en fait.
C'est ça. C'est ce qu'ils disent dans le livre, c'est que, effectivement, Oasis et Internet, c'est deux termes qui se mêlent. Clairement.
C'est aussi un groupe de musique, mais accessoirement, nous n'en parlerons pas aujourd'hui.
Et une boisson.
Tout à fait. Mais c'est comme Anorak, hein, je voulais dire, à chaque fois, c'était un bon manteau, mais à part ça, on n'était pas dans la chronique. Quoi.
Et effectivement, dans le film, cette première épreuve que je trouvais vraiment incroyable en termes de symbolique a été remplacée par une course. Pourquoi pas ? Après, c'est plus moderne, je me suis dit.
C'est sûr.
Ouais, ça va, les images avec claque. Hein. Je l'ai revu forcément pour la chronique. Effectivement, c'est très beau. Et pour gagner, il faut faire marche arrière sur la ligne de départ. Voilà. Oui.
Le glitch des années 80, c'est connu pour arriver directement premier.
Voilà.
C'est classique.
Donc, c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est dommage parce que ça passe à côté de ce côté accessible, en fait. Et ce côté accessible, on le ressent aussi dans le livre, c'est-à-dire que Wade, au début, ben, c'est un jeune homme qui est un petit peu rondouillard, il a de l'acné, il n'a pas confiance en lui. C'est une personne qui a eu des difficultés à l'école physique, et l'Oasis, c'est vraiment son refuge. Et en fait, il va grandir au fur et à mesure de l'aventure, il va prendre confiance en lui, il va prendre soin de son corps, enfin voilà, il va se transformer dans le jeu et dans la vraie vie. T'as pas cette notion d'évolution dans le film, malheureusement. L'une des premières images que tu vois de Wade, il est normal, ils lui ont mis des lunettes, mais il est normal, je veux dire. Il a pas ce côté vraiment renfrogné, je prends pas soin de moi. Il est plutôt propre sur lui, il est pas non plus trop mal fringué. Et la première chose qu'on le voit faire dans un jeu, c'est acheter une coupe de cheveux. Non. Non. Non, je suis navrée de vous le dire, mais Wade, il a pas un rond, en fait, quand il démarre. Et du coup, ton empathie par rapport au personnage empathie, je trouve. Voili voilou, je vais éviter de vous spoiler plus.
Bah oui, quand
toutes,
même. Hey, si on veut voir.
C'est déjà pas mal. Toutes les quêtes sont intéressantes, parce que je rappelle qu'il y a trois quêtes, que ce soit dans le film ou dans le livre. Moi, je vous conseille quand même de jeter un œil à Ready Player One, parce que c'est super cool. C'est bourré à ras-bord de fanservice.
J'allais te demander, justement, parce que je me souviens qu'à l'époque, il avait été autant adulé que critiqué, des gens qui disaient, bah, y en a un peu marre. de toutes ces refs, mais il y en a qui disaient, mais non, justement, c'est justement ça qui est bien, toutes les refs qu'il y a. Donc, je sais pas comment il se positionne vraiment quand tu es fan de pop culture, de jeux vidéo. Est-ce que le film est vraiment cool? Est-ce que c'est too much? Ou justement, il aurait fallu en avoir encore plus des refs? Comment tu, toi qui l'as en plus revu il y a peu, comment tu le situes, le film?
Le film, après, moi, mon avis est peut-être un peu biaisé parce que j'ai lu le livre avant. Donc, j'ai quand même, je pense, cette part de moi de liseuse qui est souvent très pointilleuse quand il y a une adaptation en film. Non, je pense qu'il est généreux, le film, en termes de références pop culture, mais que les références s'adressent vraiment au jeune public. Et alors, c'est normal pour un film de s'adapter à son public. Clairement, ça trouvera plus facilement trouver son public. Mais je pense que le film perd en intemporalité. Là où le livre parle de Pac-Man, parle de monuments du jeu vidéo qui ne changeront jamais, l'Atari 2600, enfin des choses que la plupart des gamers connaissent même de nom.
Alors, à part Pac-Man, je connais aucun des jeux que tu as cités. Hein.
Oui, non, mais là, c'est des trucs très spécifiques, mais quand je te dis Atari 2600, ça te parle un petit peu?
J'ai jamais joué dessus, jamais vu en vrai.
Ouais, tu connais deux noms, quoi, ouais. Hein,
mais
tu...
oui, mais ça te parle quand même.
Ouais. Mais ouais, j'ai
oui,
ce que
vaguement,
j'avais vu.
Moins que la NES.
La légende depuis tous ces noms-là.
Moins que la NES ou l'Amiga, quand même. Hein.
Des, oui, des choses plus, ouais, plus.
Un peu plus récentes, quand même.
Ouais, après, ouais.
Par contre, dans le film, je suis pas sûre que les références qu'on y voit, là, elles parlent au public. Mais je suis pas sûre
qu'il y a
que
du Overwatch,
ans,
je crois.
Ouais,
c'est
ouais.
Tout ce que je sais. Et sûrement d'autres trucs, mais ouais, il y a que ça que j'avais vu. Ouais, mais est-ce que ouais, c'est ta question, ton ressenti, c'est le bouquin dans 20 ans, les refs, elles n'auront pas bougé. On sait que c'est un truc pile années 70, 80, 90 au niveau des refs. Que les refs qui sont du film, est-ce que dans 20 ans, est-ce que ce sera encore toujours des refs, comme on peut le dire, quoi?
Je pense qu'il va très mal vieillir, le film. Mais après, c'est un avis très subjectif.
Même plus loin que ça, je pense que même en termes de personnage principal, en fait, le personnage principal du livre, c'est très clairement un geek slash weeb de la milieu des années 90.
C'est un nerd. Ah, c'est même un nerd.
Voilà, le type des populaire qui se fait un peu bully par tout le monde. Alors que, pour le coup, celui du film, il a un peu rien à voir avec ça, quoi.
Exactement. Et les personnages, c'est aussi le gros problème effectivement du film. Au-delà du personnage principal, il y a aussi Artemis, enfin c'est le nom de son avatar, la fille qui va l'aider dans sa quête et ils vont tomber amoureux. Dans le livre, on apprend que son avatar en fait a quelque chose d'assez réaliste. Dans l'Oasis, tout le monde peut mettre un avatar un petit peu abracadabrant. Et elle a choisi un avatar assez réaliste. Et le Wade en fait, il se dit mais elle doit à peu près ressembler à ça dans la vraie vie. Et effectivement, dans la vraie vie, dans le livre, elle est exactement que son avatar à un détail près. C'est que la nana, en fait, elle a une grosse tache de naissance sur le visage. Et en fait, la symbolique, en gros, c'est que pour elle, la seule chose qui la rend, entre guillemets, laide à ses propres yeux, hein, qui lui donne une perte de confiance en elle, c'est cette tache. C'est tout. Le reste, elle en a pas besoin. Tu vois, si elle pouvait, en fait, elle effacerait juste cette tache de naissance. Alors que dans le film... Oh, mais son avatar, c'est un truc, mais c'est une espèce de fée des eaux, je sais pas quoi, ça ressemble à rien. Enfin, ça ressemble à rien, c'est très beau, attention, mais c'est pas humain, c'est pas une manie.
Ouais, par rapport
et
au
tu
bouquin,
pars
ouais.
À côté de ça, tu passes à côté de ça, je trouve ça hyper dommage, tu vois. Et à côté de toute cette symbolique.
Ce qui est marrant, c'est que le bouquin, il est pas si vieux que ça.
Non, il est pas si vieux que ça. Attends, je l'ai à côté de moi, que je dise pas.
Parce que j'ai vu 2011 ou 2013 en France, traduit en français en 2013, de ce
ah
que
oui,
je vois.
C'est pas...
Exactement.
Et 2011, le premier jet, donc en anglais.
Celui que j'ai, effectivement, il date de janvier 2013, tout à fait.
Et tu vois, ce que je trouve, tu vois, de ce que tu nous dis, dans ce que tu as lu, c'est qu'il est très, très ancré années 80-90, ce qui est beaucoup moins le film, alors que le bouquin est passé. Il y a 7 ans qui séparent le film du livre, ce qui est rien du tout, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, ouais, après, c'était le choix au niveau de l'écriture, de la personne qui l'a écrit, du roman, et après, le choix du réal a été évidemment tout autre pour pas juste faire un copier-coller. Et ça fait, je pense, c'est aussi cette idée de se dire, on a deux interprétations. D'un même univers, ce qui peut être cool, assez complémentaire pour ceux qui lisent le bouquin et regardent le film, quoi.
Oui, c'est pas inintéressant, c'est juste que ça a été surprenant, ouais. Au-delà du fait que l'adaptation prenne ses libertés, mais ça arrive souvent, c'est que Ernest Cline, l'auteur, il est pas inhabitué au cinéma, c'est lui qui a écrit le scénario de Fanboys. Donc j'ai trouvé ça surprenant qu'il accepte Pas les adaptations. Les adaptations pop culture, ça, je peux le comprendre. C'est plus ouais, tous ces passages de symbolique qui passent à la trappe, en fait. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus lissé dans le film, et j'ai trouvé ça dommage.
T'as pas le temps aussi. Hein. Je pense
oui,
que
c'est sûr. C'est vrai.
C'est un peu compliqué d'adapter. Après, des fois, ça ne fait pas tout. Des fois, il y a des choix où ils auraient pu très clairement faire des choix identiques au bouquin, et c'était juste autre chose qui a été fait. Mais là, je pense que autant souvent on dit aux gens lisez le bouquin. Certes, vous serez peut-être déçu par le film, mais au moins, vu que le bouquin est toujours plus complet, vous allez vraiment découvrir au fil des pages le suspense, je ne sais quoi. Là, peut-être, je pense pas que c'est un film ou un livre à grand suspense, un grand machin. Je pense qu'on n'est pas là-dedans à être étonné ou autre. Je pense qu'on est plus à profiter des références ou autre. Donc peut-être que tu dirais aux gens de d'abord voir le film pour l'apprécier. Et ensuite, de lire le bouquin qui va peut-être étoffer certaines choses, peut-être dans ce sens.
C'est ce que je conseille généralement. Alors, le problème, c'est que les livres sortent avant les films. Et moi, c'est toujours dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire, je lis un livre et quelques années plus tard, un film sort. Et du coup, je suis généralement déçue.
Ah, c'est ça.
Mais oui, je
c'est
conseille...
Chance,
c'est ça. Mais oui, mais on ne peut pas le deviner, en fait, quand un livre sort qui va être adapté. Donc, mais oui.
Et deux, cinq ans plus tard.
Ouais. Ah, par exemple.
Il faut l'avoir connu, tu vois. Moi, je savais pas qu'il y avait un livre. Je savais pas qu'il y avait un livre, tu vois, Ready Player One, tu vois.
Super cool. Je vous le recommande vraiment. Et effectivement, pour répondre à ta question, oui. Je vous conseille dans ce cas-là, même pour vos autres expériences comme ça, film et livre, regardez le film et ensuite lisez le livre parce qu'effectivement, ça donne des détails qu'ils ont le temps de donner dans le livre. Ça te donne une autre perspective. Enfin,
ça t'évite d'être déçu par le film.
Accessoirement.
C'est le meilleur moyen de pas être déçu par le film et de faire de cracher sur le film, mais tu l'auras déjà vu.
Exactement.
Mais c'est vrai que côté suspense, si les gens kiffent le suspense à l'écrit, bah dans ce sens-là, oui, vous perdez le suspense, vu qu'en commençant le bouquin, vous connaîtrez déjà la fin. C'est la problématique. Vous n'aurez jamais le meilleur des deux mondes, de toute façon.
Non, effectivement.
Donc bon, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai envie de voir ce Ready Player One. Je sais que maintenant, on commence à avoir des films, enfin films d'animation, enfin, disons, qui sortent au cinéma de bonne qualité, je pense à Mario, mais qui sont récents, donc ça c'est plutôt cool. J'espère qu'on va tendre.
Tu parles que d'adaptation ou de films qui parlent de jeux vidéo dans le sens général?
Tout. Je pense que dès qu'il y a soit tu as adaptation, donc Mario, Sonic, Détective Pikachu, des choses qui sont vraiment marquées de la licence qu'ils représentent, ou comme Ready Player One, qui sont plus généraux et c'est le thème global. La problématique avec un thème global, c'est que quand tu essayes d'avoir plein de rêves, de plein de trucs partout, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a les mondes de Ralph qui l'ont bien fait.
Juste milieu pour pas faire cheap, quoi. C'est ça, le truc.
Les mondes de Ralph, je trouve, l'ont bien fait. C'est pas un truc qui a une licence marquée de c'est Pokémon, c'est bidule, c'est chouette, mais t'as plein d'avatars, si vous avez regardé les mondes de Ralph et les mondes de Ralph 2.0, qui sont excellents. On voit des personnages issus de plein de licences, on voit des personnages de Street Fighter, des genres de choses, et c'est plutôt cool et c'est bien ancré dans l'histoire. Voilà, tout est bien fait. Donc... j'espère qu'on va de plus en plus, je parle vraiment au cinéma, avoir des choses qui sont vraiment cool.
Oui, j'espère aussi. Alors, si je peux me permettre, je glisse juste ça pour fermer ma parenthèse, mais deux films que j'aime vraiment beaucoup sur l'univers du jeu vidéo, alors tout le monde ne les aime pas, mais moi je les adore. Il y a Free Guy, que j'ai trouvé excellent, qui date de 2020. Et Pixel. Alors, Pixel, il n'y a pas beaucoup.
C'est enfin, le bon chien.
Il fait vraiment beaucoup débat, mais Pixel, je le trouve vraiment très, très bien pour le coup.
Ah, je ne l'ai pas cité. Oui, effectivement. Ça fait. Quelle année
Oh, Pixel, ça doit dater maintenant.
Regardons. C'est pas le film avec un gros Pac-Man sur la jaquette?
Si.
2015.
Je ne l'ai pas vu.
2015.
J'en avais entendu que du mal à l'époque.
Je le trouve excellent. Je sais que les gens ne l'aiment pas généralement, mais je le trouve vraiment excellent et je le regarde souvent, très souvent. J'ai beaucoup de plaisir à le regarder.
Ouais, y a des films comme ça que les gens n'aiment pas à leur sortie, puis 5 ans plus tard, ils le trouvent bien. Hein.
Ah, moi, à sa sortie, je l'ai kiffé tout de suite. Je faisais partie de ces aliens.
Autant celui que tu nous as présenté, Ready Player One, il est sur ma liste et j'ai envie de le voir, et c'était prévu, etc. Autant, ouais, Pixel, j'ai entendu tellement de mauvais retours que...
Moi, je pense que je le verrai, mais il n'est pas dans ma liste. Mais je le verrai, je pense. Mais ça se trouve,
tu penses, ça se trouve, inadvertance un jour.
C'est ça, en me trompant. Est-ce que ce sera un plaisir coupable comme la... J'adore regarder une fois tous les 10 ans Mortal Kombat 1 et 2. C'est un plaisir de tous les 10 ans que j'aime faire.
Donc, en tout cas, moi, j'avais, je ne savais pas du tout que c'était adapté d'un livre. Donc, je découvre Ready Player One. Et je pense que, en tout cas, le film, c'est prévu, hein, un jour je vais le regarder. Et peut-être si le film me plaît beaucoup, bah, j'irai jusqu'à aller chercher le bouquin.
Tu passeras le pas du libraire.
Et voilà, et je passerai la porte d'un libraire pour aller chercher d'occasion, hein, sans doute.
Ouais, faut pas abuser. certes, je vais le lire, mais bon, d'occasion quand même. Mais oui, de toute façon, le marché d'occasion, il faut le faire fonctionner également.
Et ouais, et du coup, bah, merci beaucoup pour la découverte de ce bouquin dont je connaissais même pas l'existence.
Donc voilà.
Mais tant mieux.
N'hésitez pas, Ready Player One, hein, le film, le livre, profitez-en et donnez-lui une vraie chance, surtout si vous en avez que entendu parler et eu de mauvais échos. Laissez-lui sa chance, laissez la chance au produit, comme on dit.